Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est le 6 juin. 6 juin 2022. Évidemment, on se souvient que le 6 juin, c'est aussi l'anniversaire du débarquement de Normandie, hein, qui a marqué un tournant important à la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Mais le 6 juin aussi, c'est la journée d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons au menu? On va parler avec Philippe Ducharme, notre chroniqueur et vulgarisateur scientifique. Parlant science, nous aurons également un chercheur de l'université de l'ETS, M. Michel Demjanjuk, qui va nous parler aussi de science et d'avancées dans ce domaine-là qui peuvent intéresser beaucoup de gens. Patrick Paulin de Victoriaville sera là avec nous aussi pour parler des adaptations de la ville de Victoriaville qui s'est en fait mérité un prix. Mais en entrée de jeu, Jocelyne Sylvestre, directrice générale de Trade Union Outaouais, est à notre micro dans 2 minutes. Merci. On n'a plus les 2 minutes qu'on avait. Madame Sylvestre, comment allez-vous?
Bonjour. Ça va bien, merci.
Oui, bien d'abord, on faudrait peut-être placer qu'est-ce que le Trade Union Outaouais, parce que c'est un organisme qui a une longue histoire.
Oui, Trade Union Outaouais, c'est né en 1988, donc il y a tout près de 35 ans maintenant. Et puis, on dessert les personnes qui sont autistes, ainsi que leur famille.
Une famille. Et ça, c'est dans la région de l'Outaouais?
Oui, oui, bien sûr.
Est-ce que, il y a eu, moi, ce qui nous a... fait connaître votre organisation et votre implication récemment, c'est que vous avez envoyé une lettre ouverte aux médias où vous dénonciez une situation où les enjeux scolaires là, des parents qui ont des enfants ou des adolescents qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme, là, c'est pas évident dans votre coin. Et je pense que c'est le reflet d'une situation qui est plus large, là.
Oui, définitivement. Effectivement, j'avais accordé une entrevue là dans un journal de notre coin ici à ce sujet-là. Et puis, ce qu'on constate beaucoup, surtout avec la pandémie, puis après la pénurie de main-d'œuvre qui en rajoute un peu, là, c'est que les services scolaires aux élèves autistes en ont vraiment souffert et continuent d'en souffrir beaucoup.
Est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Est-ce qu'il y a des gens, enfin des situations qui sont en train de se corriger? Ou vous avez l'impression que c'est une détérioration là qui ne semble pas...
Mais je pense qu'il y a définitivement une détérioration, comme dans beaucoup de choses, je pense, en raison de la pandémie puis de la pénurie de main-d'œuvre. Mais ce que je disais, entre autres, c'est que c'est très variable d'une école à une autre, d'une classe à une autre, d'un enfant autiste à un autre. Il y a des milieux où ça se passe bien, où il y a des situations où ça se passe bien, mais il y en a beaucoup d'autres pour lesquelles ça se passe beaucoup moins bien. Fait que c'est un petit peu difficile de faire un portrait très précis là, de ce qui va bien, ce qui va pas bien, ce qui serait à améliorer. Mais ce qu'on veut dénoncer, nous, c'est qu'il doit y avoir une attention qui soit portée à ces élèves-là pour que ça cesse de les pénaliser là, dans leur éducation.
Parce que sinon, on risque, entre guillemets, je dirais pas de les perdre, mais les acquis qui ont été réalisés dans le passé vont s'effacer. On va avoir... la situation va se détériorer pour eux.
Puis on sait que c'est des enfants pour qui tout le changement aussi est très, très, très difficile. Donc, avec toutes les adaptations que ça nécessitait pendant la pandémie, avec toutes les mesures sanitaires, la scolarisation en ligne, etc., était très difficile. Puis là, la pénurie de main-d'œuvre qui crée beaucoup de roulement de personnel dans les classes, tout ça, c'est une situation qui est très, très, très difficile. Donc, il faudrait que chaque centre de service scolaire ou chaque école se penche sur cette situation-là pour voir comment ils peuvent pas nécessairement contrôler la pénurie de main-d'œuvre ou le roulement de personnel, mais comment ils pourraient tempérer certains effets, là, particulièrement sur les élèves autistes.
Dans votre communication, il était à question, entre autres, que ça semble être au niveau du secondaire que les lacunes sont les plus importantes.
Oui, ça fait longtemps, en fait, puis je trouve que là aussi, il y aurait des améliorations importantes à faire parce que autant au primaire, on avait quand même mis en place des mesures là, pour essayer de mieux desservir ces enfants-là, qu'ils soient en classe régulière ou qu'ils soient en classe adaptée. Au niveau du secondaire, il y a beaucoup d'éléments qui se perdent. À ça s'ajoutent bon, tous les changements d'adolescence que vivent les élèves autistes. Eux aussi, là, ils ne sont pas vaccinés contre l'adolescence et les changements. Et puis aussi l'intimidation qui entre en ligne de compte, la préparation de l'avenir, tout ça. Fait qu'il y a des gros enjeux au niveau de l'adolescence et puis c'est pas toujours bien adressé dans les milieux scolaires avec tous les programmes aussi, les différents parcours qui sont disponibles dans les écoles secondaires. Ça devient plus difficile pour eux de s'y retrouver aussi puis d'avoir une stabilité puis un suivi à ce niveau-là.
Mais là, on parle justement de l'éducation, du milieu scolaire, mais il y a aussi eu, je pense, des effets collatéraux importants dus à la réforme dans les services de santé. Un plus l'autre, là, ça fait ce que ça fait aujourd'hui.
Oui, puis le réseau de la santé aussi est affecté, a été affecté par la pandémie et par la pénurie de main-d'œuvre et continue de l'être. Donc là aussi, il y a beaucoup de roulements, ce qui fait en sorte que habituellement, par exemple, il y a des ententes entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé et des Services sociaux qui vont faire en sorte que les intervenants vont collaborer justement auprès des élèves pour qu'il y ait des meilleurs plans d'intervention, des mesures d'adaptation, etc. Puis ça aussi, ça en a pris un coup pendant la pandémie, et puis il y a beaucoup de mesures qui ne sont pas en place, il n'y a pas de suivi, tout ça. Puis il ne faut pas oublier non plus que ces élèves-là, ils ont des parents qui sont eux aussi affectés aussi beaucoup par la pandémie.
Dans le milieu familial, que ce soit l'emploi, la présence, oui.
Oui. Fait que ça aussi, ça fait en sorte que ces élèves-là n'ont pas nécessairement toute l'aide dont ils ont besoin, puis les parents sont à bout de souffle aussi, donc ne sont pas toujours en mesure de mener les batailles qu'ils mèneraient habituellement et qu'ils devraient continuer de mener pour justement que leur enfant ait droit à une scolarisation. Puis ça ne devrait pas dépendre des parents non plus, des batailles des parents, mais c'est quand même un autre dommage collatéral, si on veut, de la pandémie et de la pénurie de main-d'œuvre.
Dans les situations où ça semble aller mieux, parce que vous avez dit que c'était une géométrie variable, là, il y a des endroits où ça va mieux que d'autres. Est-ce que c'est simplement parce que le personnel est plus stable, que le ratio de personnel aidant par élève est meilleur?
Je trouve que ça dépend trop souvent. Ça s'appuie trop souvent sur des personnes. Tu sais, quand on a un bon professeur, quand on a un bon orthopédagogue dans le milieu, un bon psychoéducateur, un bon technicien d'éducation spécialisée, ça va bien. Mais étant donné que les structures, ça ne repose pas sur des structures, c'est fragile parce que si la personne, pour une raison ou une autre, est déplacée dans un autre poste, on repart à zéro, puis il n'y a pas nécessairement de filet de sécurité pour s'assurer que la continuité soit assurée non plus.
Oui, je comprends. La situation n'est pas vraiment... À Gatineau, c'est une chose parce que c'est la région dans laquelle rayonne le trait d'union.
Ouais,
Et donc, vous êtes bien au fait de ce qui s'y passe. Est-ce que vous avez des conversations avec vos collègues, vos semblables à travers le Québec?
Beaucoup.
Ça semble pas être différent.
Non, effectivement, parce que moi, je suis aussi très impliquée à la Fédération québécoise de l'autisme et puis avec les autres associations régionales. Nous sommes 16 associations qui ressemblent à Trédunion dans cette fédération-là. Et puis, la situation est vraiment très similaire dans chacune des régions. Encore une fois, à géométrie variable, il y a du bon, mais il y a du moins bon. Puis, on compte un peu sur... c'est toujours un coup de dé. Oui. Dans le fond, pour savoir si l'enfant va être bien à l'école et bien avancé dans ses apprentissages.
Oui, c'est comme une loterie, alors que ça devrait être une certitude d'avoir un service adéquat, mais là, c'est presque...
C'est quand même inscrit dans la loi.
Ben voilà, puis c'est une question morale importante, là, tout simple.
Oui.
Revenons un peu à ce que Trait d'Union fait, au-delà de l'éducation, parce que Trait d'Union n'est pas impliqué... dans le milieu scolaire directement. Trait d'Union s'occupe à la fois de jeunes adultes ou d'adultes, mais aussi d'enfants. Puis c'est votre programmation estivale qui a été interrompue à cause de la COVID. Là, ça recommence cet été.
Oui, en fait, on a offert un camp d'été l'an dernier, plus petit qu'on le fait habituellement. On en a fait un petit peu plus gros cette année, donc on se redirige tranquillement vers notre camp de jour habituel. On a réussi quand même, on est content parce que avec la pénurie de main-d'œuvre, on craignait un peu de ne pas recruter tout le personnel nécessaire pour assurer les camps d'été. Mais finalement, ça se passe assez bien, donc on va pouvoir offrir à peu près 3 semaines là, à une cinquantaine de familles, ce qui est déjà pas mal bien.
Oui, parfait.
C'est ça, mais on a beaucoup de familles qui sont en attente, donc on va avoir quand même une trentaine, quarantaine de familles là, qui voulaient avoir accès à notre camp de jour et qui n'y auront pas accès du tout. Donc ça, c'est bien dommage.
Est-ce que vous pensez que ce soit possible dans les années futures d'y arriver? Mais c'est toujours une question de trouver une quantité suffisante de personnel.
Oui, puis il y a quand même plus on a de demandes, plus ça devient difficile de répondre à toutes les demandes.
Vous êtes victime de votre succès. Vos camps sont populaires, donc d'autres personnes veulent y inscrire leurs enfants.
Oui, puis je vous disais tout à l'heure que bon, on va offrir 3 semaines, mais bon, l'été, c'est beaucoup plus long que ça. Hein?
Oui.
Imaginez si vous avez un jeune enfant que vous voulez inscrire dans le camp de jour. Habituellement, vous l'inscrivez à tout l'été ou en tout cas à tout le moins à une bonne partie de l'été, puis vous après ça, vous prenez certaines vacances avec les enfants, etc. Pour les familles d'enfantistes, quand on leur offre 3 semaines, souvent, ils ont accès à aucune autre offre de camp de jour. Et puis, les 3 semaines qu'on leur donne, ben c'est la seule aide dont ils vont bénéficier pendant l'été. C'est la seule structure dont l'enfant va bénéficier pendant l'été aussi. Fait qu'encore là, au niveau de ses acquis, sa routine, etc.,
ça
fait beaucoup de semaines à combler. Donc, ça devient un enjeu. Puis, je pense que nous, ce qu'on souhaiterait, c'est pas tant de pouvoir en accueillir beaucoup, beaucoup d'autres ou de pouvoir accueillir tout ce qu'ils demandent.
Plus longtemps.
Mais c'est que les enfants puissent être intégrés dans d'autres type de camp de jour. Bon, il y a des camps de jour à la ville de Gatineau, par exemple, où ils ont de l'accompagnement pour les enfants qui ont des besoins spéciaux, dont les enfantistes. Mais eux aussi ont eu beaucoup de difficultés avec la pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a beaucoup de. Les places sont très, très, très réduites. Les camps de jour qui sont offerts un peu partout n'offrent pas nécessairement d'accompagnement. C'est pas tous les enfants qui sont capables de participer à des camps de jour réguliers sans adaptation, etc. Fait qu'il faudrait qu'il y ait plus de places qui soient. Nous, notre mission, c'est l'intégration sociale. Donc,
exact.
On ne peut pas nécessairement tous les accueillir chez nous et créer un petit ghetto de
oui, tout à fait. Il ne faut pas que ce soit les enfants de Trait d'Union. Il faut que ce soit les enfants de la communauté gatinoise.
C'est ça. Donc, tout le monde a une responsabilité d'intégrer ces enfants-là ou d'inclure ces enfants-là dans leur camp. Puis nous, c'est ce qu'on souhaiterait, qu'il y ait plus de programmes de ce type-là qui soient développés un peu partout. Quitte à ce que ça soit, par exemple, une partie de l'été à Trait d'Union, mais une autre partie de l'été pour vivre d'autres expériences avec d'autres enfants. Là.
Tout à fait.
Que ça soit moins un casse-tête pour les parents aussi, parce que à ce moment-là, ça les force souvent à soit prendre des semaines de congé sans solde, prendre leurs vacances pour...
en conséquence, oui. Bien là, ça devient compliqué
ça.
Pour tout le monde, tout à fait.
Oui, effectivement.
Ben, le travail de Trait d'Union est remarquable dans ce sens-là, puis le fait que vous ayez toujours une vision d'intégration à la communauté, ça va faire la différence. Ben, Madame Sylvestre, je vous remercie. Madame Jocelyne Sylvestre, directrice générale de Trait d'Union Outaouais.
Bien, je vous remercie beaucoup.
Passez un bel été.
Vous aussi. Bye-bye.
I've Told Every Little Star, Cannonball Adderley Quartet, enregistré en 59 sur Blue Note. Cannonball Adderley est un saxophoniste alto-américain né en 1928 à Tampa et décédé en 1975. Un des bons saxophonistes alto dans le hard bop, puis après ça, jazz funk. Au piano, on avait Wynton Kelly à la batterie, Jimmy Cobb à la basse, Paul Chambers, voilà. Vous cherchez Cannonball Adderley, vous en trouvez toutes sortes d'excellentes musiques comme celle-là. Par ailleurs, nous allons trouver maintenant, de l'autre côté du micro, M. Philippe Ducharme. Bonjour, Philippe.
Bonjour, François, ça va bien?
Ça va super, merci. Vulgarisateur scientifique maison, Philippe, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui?
Bon, ben, j'avais envie de vous amener dans un terrain plutôt méconnu, qui est celui de la mécatronique.
Pas mégatronique, là, ça semble être un jeu vidéo, ça. La méca comme CA, mécatronique.
C'est ça, donc méca comme mécanique et tronique pour électronique. Donc, c'est un domaine, on a compris, qui permet de concevoir des systèmes automatisés, des systèmes quand même intelligents. Donc, on parle aussi d'automatisation et d'informatique. L'objectif de produire des appareils mécatroniques, c'est de leur permettre, entre autres, de s'adapter à différentes conditions. Et en ce sens, il y a un chercheur de l'Université Laval qui s'est intéressé donc à développer des technologies pour aider les personnes avec des handicaps physiques et ou moteurs. On pense par exemple aux personnes qui souffrent de Parkinson ou de dystrophie musculaire ou encore de paralysie cérébrale. Ce sont des exemples.
Mais là, quand on parle de mécatronique, donc il s'agit d'une structure ou d'un concept d'abord mécanique, mais qui apprend jusqu'à un certain point ou qui s'adapte.
On peut dire ça en quelque sorte. Je vous donne un exemple, je vais en donner deux, mais je commence par le premier, qui est un logiciel qui va permettre de contrôler le curseur de l'ordinateur, mais ça, non pas avec la main et la souris, mais plutôt par les mouvements de la tête.
Oh.
Alors, on a des caméras, une caméra tout à fait ordinaire installée sur un écran d'ordinateur. Cette caméra-là va évidemment capter les mouvements de la tête et va les transposer en mouvement, donc en déplacement du curseur sur l'écran.
D'accord.
Donc, évidemment, il y a des algorithmes derrière ça qui vont permettre de stabiliser le curseur avec les mouvements de la tête, par exemple. Si on veut sélectionner quelque chose, ben, on n'a simplement qu'à hausser les sourcils.
Oh, OK.
C'est une manière, entre autres,
alors, le clic gauche, c'est le sourcil gauche, le clic droit, c'est le sourcil droit ou c'est les deux à la fois?
Ah, ça, l'histoire ne la dit pas, okay. Mais toujours est-il qu'on peut donc faire les choses sans avoir besoin d'une souris conventionnelle, puis on comprend que pour les gens qui ont des difficultés motrices et ou physiques, ben, ça devient
les vraiment... Les membres supérieurs, ainsi de suite, parce que ça suppose quand même qu'on a un contrôle des muscles de son cou et de sa tête.
Exact.
Mais si on a de la difficulté à l'appréhension avec les mains, où les membres supérieurs sont absents, quelque chose comme ça, à ce moment-là, on peut pallier. Alors ça, c'est de la mécatronique.
Voilà. J'ai envie de vous parler d'une autre innovation qui est quand même intéressante. C'est toujours les travaux d'Alexandre Campeau et son équipe. C'est une cuillère d'assistance. Donc, pour les gens qui ont de la difficulté à prendre une cuillère et de l'amener vers la bouche pour s'alimenter, bien, on a imaginé, il faut se mettre en tête qu'on a l'équivalent d'un support de lampe de table de travail.
OK, comme avec c'est comme des montants en métal parallèles avec des ressorts et des coudes.
Exactement. Remplacer la lampe par une cuillère et également un manchon, là. Donc un petit manche qui permet quand même à la personne de manipuler l'instrument. La version mécatronique de cette cuillère d'assistance-là, bien, elle intègre des capteurs qui sont en mesure de capter donc les spasmes, là, par exemple, les tremblements d'une personne et de les corriger au moyen de petits moteurs, des petits moteurs qu'on appelle des actionneurs. Donc, en temps réel, ces petits éléments-là vont faire en sorte que le mouvement pour s'alimenter va être beaucoup plus fluide. En fait, les personnes qui ont des difficultés...
Plus fluide, surtout quand on mange de la soupe, c'est important. Je peux comprendre le tremblement tout à fait. Ça va comme atténuer ou corriger. C'est un peu comme si on débrouillait les ondes.
Exactement. Ça redonne aussi de l'autonomie à ces gens-là, ce qui est quand même une chose importante, là, d'être en mesure de s'alimenter par soi-même. Je pense qu'on souhaite tous être capables de le faire durant notre vie. Donc, on a ici une belle innovation qui aide ces personnes-là qui ont des difficultés au niveau moteur.
Ça, c'est la mécatronique.
Voilà.
Bravo. Toujours du côté universitaire québécois, on cherche également des avancées du côté de l'Alzheimer.
Absolument. Donc, je suis tombé sur quelque chose qui m'a moi-même très étonné. C'est pour ça que j'avais envie de vous le partager. Donc, je vais d'abord commencer en disant que depuis quelques années, il y a quand même des travaux qui ont démontré qu'il y a une protéine présente dans la gencive qui a démontré des propriétés antimicrobiennes. Je vais vous nommer, là, c'est la Porphyromonas gingivalis.
C'est la bactérie, ça.
Ça, c'est la bactérie, oui, effectivement. La bactérie qui va notamment être responsable de causer la gingivite, donc une maladie des gencives là, qu'on connaît, là, une inflammation de la gencive. Et donc, cette bactérie-là, ben, on le sait, là, il y a des liens avec le diabète, probablement avec les maladies cardiovasculaires, mais ce que moi, j'étais étonné de constater, c'est qu'il y a également des liens avec l'Alzheimer, quand même une maladie neurodégénérative. Donc, a priori, je me dis, mon Dieu, c'est...
On ne faisait pas le lien, je comprends, mais... Et donc, oui. Cette bactérie-là qui oui. se retrouve dans les bouches humaines parce que oui. on a mis les lèvres là où on ne devrait pas, comme boire uh-huh. directement une canette ou une, oui. une bouteille au lieu de la verser exactement. Dans un verre propre. Quoi qu'il en soit, depuis assez longtemps que cette bactérie-là est dans l'univers, le corps humain a développé une protéine oui. pour la combattre.
Exactement. Donc, si on revenait à la protéine, donc je vais simplement donner son acronyme, là, ça va être plus simple. Donc, elle se nomme SCPPP. Q1. Donc, c'est le nom qu'on lui a donné.
Oui.
Une protéine produite, donc, comme je disais, au niveau des cellules de la gencive. En fait, son rôle à elle, c'est de faire une espèce de colle, si on peut dire, entre la gencive et la dent. Puis ça, c'est pour empêcher les bactéries de pénétrer dans la gencive puis de causer une inflammation. Mais donc, ce qu'on a été en mesure de démontrer, des recherches, et en ce sens, il y a un chercheur à l'Université de Montréal qui a bonifié les connaissances qu'on a sur cette protéine-là. Comment elle agit? Comment elle parvient, en fait, à agir, bien, elle fera en sorte que les bactéries vont plutôt s'agréger. Elles vont former des agrégats, des petits motons, finalement, de bactéries. Mais ça va faire en sorte que les bactéries n'iront pas coloniser la gencive. Cette protéine-là va également perturber la membrane des bactéries. Donc, c'est comme si on venait un peu perforer la membrane, de sorte que les bactéries vont mourir.
Ces bactéries-là, si elles sont en trop grand nombre dans la bouche, dans notre système, il y a une corrélation entre la présence importante de ces bactéries-là et l'apparition d'Alzheimer.
Tu as bien dit, Françoise, une corrélation, parce que présentement, on ne connaît pas précisément là, tous les mécanismes en jeu, mais ce qu'on a remarqué, je termine avec ça, c'est en disant que, ben, justement, ils ont analysé les cerveaux de personnes qui souffraient d'Alzheimer une fois décédées, puis ils ont remarqué la présence de cette bactérie-là dans le cerveau comparativement à des personnes qui n'ont pas développé la maladie d'Alzheimer. Donc, on est vraiment dans une situation où il y a une corrélation, il y a de la recherche qui doit être nécessaire pour mieux comprendre cette relation-là. Mais ce qui est quand même intéressant en ce moment, c'est qu'on sait qu'on a peut-être une autre arme possible pour tenter de lutter ou du moins d'atténuer les effets de l'Alzheimer chez les personnes qui peuvent en souffrir.
Bien, parce que c'est sûr que l'Alzheimer peut être une maladie qui a plus d'une cause possible.
Absolument.
Donc, il faut parer à toutes les éventualités. Alors ça, c'est quelque chose que le professeur Antonio Nanni, qui est chercheur au département de stomatologie de l'Université de Montréal, en collaboration avec des gens de l'Université Laval et McGill, c'est là-dessus qu'ils sont en train de plancher.
Absolument. Bravo. Absolument.
Ben, encore alors, un autre truc. Ben, la science, tous les jours ou toutes les semaines, nous émerveille. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de l'acoustique?
Donc, au niveau de l'acoustique, bon, évidemment, on connaît quand on parle de problèmes d'audition, on pense souvent aux problèmes de perte d'audition, mais il n'y a pas que ça. Je vais vous nommer, par exemple, l'hyperacousie, qui est une sensation d'intolérance au son, là, comme si on percevait des sons beaucoup trop forts par rapport à la plupart des gens, ou encore les acouphènes. Ces sons qu'on entend, mais qui ne proviennent pas de
l'extérieur. Ah oui, je
sais.
Moi, ça fait 2 ans que j'ai des cigales dans la tête. Oui, voilà.
Bon. Donc, il y a une chercheure à l'Université de Montréal, à l'École d'orthophonie et d'audiologie, qui s'intéresse à ces deux troubles-là de l'audition. Elle va utiliser des instruments technologiques, par exemple, des bouchons de protection, qui sont en fait des petits, on va appeler ça des microphones intelligents. C'est-à-dire qu'ils ont un microphone qui permet d'enregistrer le battement cardiaque interne, la personne, et un microphone qui peut émettre des sons. Ultimement, l'objectif de ça, c'est de mieux comprendre les effets du stress sur, exemple, les acouphènes, parce qu'on le sait qu'il y a une relation entre les deux. Le but ultime serait, par exemple, je vous donne un exemple, que lorsque la personne est en situation un peu stressante, le rythme cardiaque augmente, bien le petit bouchon dans l'oreille le perçoit et va émettre un son ou alors une musique douce qui va peut-être, disons, masquer l'acouphène ou du moins l'atténuer.
Donc,
c'est une visée souhaitée.
Ben, c'est formidable. C'est Mme Sylvie Hébert, si je ne me trompe pas, à l'École d'orthophonie de l'Université de Montréal qui est là-dessus. Ben, merci beaucoup, Philippe Ducharme. Et vous serez content d'apprendre que tout de suite après la pause, on va continuer de parler des oreilles. nous aurons avec nous un chercheur à l'ETS qui s'intéresse à la conversion de l'énergie du conduit auditif au moment de la mastication.
Je crois que c'est certain.
Restez avec nous. De retour après la pause.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour après la pause, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie M. Michel Demenc, qui est candidat au doctorat à la chaire de recherche industrielle à l'École de technologie supérieure. Et M. Demenc, vous travaillez sur quelque chose de si simple qu'il fallait y penser, mais encore faut-il être capable de le faire.
Bonjour.
Oui.
Oui, en effet, je me concentre, on va dire, sur l'interaction qu'il y a entre le conduit auditif, donc par lequel on a la chance d'écouter, et la mâchoire. Et il s'avère que le mouvement de la mâchoire, en fait, déforme notre oreille, donc notre conduit auditif. Et nous, à la chaire de recherche industrielle CRITIAS, on s'intéresse et on essaye de chercher à comprendre pourquoi et comment on pourrait créer de l'énergie avec cette déformation qui s'opère dans le conduit auditif.
Parce que c'est assez facile de faire l'expérience. Ceux qui peuvent le faire, mettez votre petit doigt dans votre oreille, puis commencez à mastiquer, et on voit que le haut de la mâchoire inférieure, c'est le condyle, si je me souviens bien, mes cours de bio,
va
compresser un peu le conduit auditif. Alors, c'est un peu comme un tube de caoutchouc qui s'écrase et qui reprend sa forme. Et quand on parle ou quand on mastique, là, il y a une énergie kinétique qui est produite. Alors là, vous essayez d'arnacher cette énergie-là, un peu comme on fait avec les marées.
Exactement, oui. Le but ultime, ce serait de savoir exactement, on va dire, le point localement où le fameux condyle mandibulaire, qui est la partie osseuse de la mâchoire, vient contraindre, on va dire, le conduit auditif, qu'on pourrait assimiler comme vous l'avez bien dit, à un cylindre troué en caoutchouc. Et ce serait de venir mettre exactement à cette localisation précise un capteur qui viendrait convertir ce déplacement, cette contrainte mécanique qui a lieu à cet endroit précis, en énergie électrique. Et donc cette énergie électrique, idéalement, elle serait stockée dans une batterie jusqu'à, on va dire, ce qu'elle soit appelée à être utilisée par une technologie qu'on appelle intra-auriculaire.
Et parce qu'on parle tout de même, je faisais un parallèle avec les usines marémotrices là, qui convertissent le mouvement des vagues, mais là, on est dans une toute autre échelle. On parle d'une quantité minime d'énergie, mais qui pourrait quand même être utile.
Exactement, oui. On va dire l'ordre de grandeur de ces énergies-là, ça, c'est le milliwatt. Donc c'est sûr que comparé, on va dire, au gigawatt ou au mégawatt, je ne sais pas exactement les ordres de grandeur des usines électriques, on en est bien loin, mais on va dire que cet ordre de grandeur, il est proche de l'énergie requise pour, on va dire, tout système intra-auriculaire. Donc ça peut être des bouchons, comme les bouchons pour écouter de la musique dans nos oreilles, ça peut être des casques, ça peut être des prothèses auditives, bien évidemment. Et en fait, nous, on a constaté que l'énergie qu'on pouvait récupérer à l'intérieur du conduit auditif, avant sa transformation en énergie électrique, elle était du même ordre de grandeur que l'énergie requise par une prothèse auditive, par exemple. Donc c'est ça qui, on va dire, motive notre recherche, et qui encourage, on va dire, les perspectives, on va dire, de continuer à faire ce qu'on fait, parce qu'on croit bien que on va pouvoir, on va dire, utiliser cette quantité encourageante d'énergie mécanique dans l'oreille auditive de manière à pouvoir suppléer ou supplanter l'énergie électrique qui est aujourd'hui utilisée soit par des batteries rechargeables, soit par des, on va dire, des petites piles boutons qui oui. sont par exemple dans les prothèses auditives, oui. On va dire pas d'ancienne génération, mais qui sont très très démocratisés aujourd'hui dans les prothèses auditives.
Qui sont assez largement répandus. C'est certain que quelqu'un qui écoute de la musique, c'est tout simplement pour le plaisir, c'est une chose, mais quelqu'un qui dépend de ses prothèses auditives pour capter les sons dans son environnement, quand tout d'un coup la pile commence à se décharger, c'est un peu anxiogène. Il faut trouver un moyen de la recharger et on n'est pas toujours à la maison pour le faire. Enfin, des fois, on peut être dans des milieux où il y a des contraintes. Il peut y avoir des stress. Alors, c'est sûr que ça a une application ludique si on peut recharger nos écouteurs pour écouter la musique qu'on aime bien. Mais pour les gens qui ont des prothèses auditives, là, c'est tout un autre ordre de service qu'on leur rend. Donc, l'énergie qui est créée qui est par la mastication, est-ce que la parole, dans un autre ordre de grandeur, combien de temps est-ce qu'il faut mastiquer? Parce que si finalement on ne bouge pas, il n'y a rien qui se passe.
Exactement. Si on garde notre mâchoire immobile, on va dire que notre conduit auditif, lui, n'est pas déplacé. Et donc, il ne crée pas d'énergie mécanique due à son déplacement et à sa déformation. Et du coup, la parole, donc non pas la parole en elle-même, mais l'action de parler, va entraîner le déplacement du conduit auditif et donc, a fortiori, la production d'énergie mécanique.
Et la mastication d'autant plus, parce que le mouvement me semble plus large là, quand on mastique.
Exactement, oui. La mastication a une amplitude un peu plus grande. Puis en plus, on a une fréquence de mastication. On fait ça, on va dire, de manière bien saccadée et pendant un certain temps. Oui. Et justement, la dernière étude en date qui a été faite dans notre chaire de recherche CRITAS à l'ETS a trouvé que... On va dire, on contribue à peu près 22% de l'énergie requise pour le fonctionnement d'une prothèse auditive, et cela en seulement 10 minutes de
mastication. Alors, si on mange trois fois par jour, qu'on prend les bouchées doubles pour faire un peu plus de mouvement, sans blague, si on mastique 20 minutes matin, midi et soir, ça fait 60 fois 22, on l'a compté, puis on a même dépassé. À ce moment-là, votre défi, ça devient de la conversion de cette énergie, parce que elle n'est pas tout à fait complètement reconvertie en énergie électrique.
Exactement. Je pense que c'est le plus gros challenge aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, en fait, la quantité nécessaire pour alimenter, prenons par exemple la prothèse auditive, on arrive à l'obtenir, je vais mettre des guillemets, assez facilement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas utiliser cette énergie mécanique telle qu'elle pour l'envoyer, on va dire, alimenter nos prothèses auditives. Et donc, tout l'enjeu est là, c'est que cette énergie mécanique, elle doit être convertie en énergie électrique pour au moins être conservée, stockée, soit dans nos piles, soit dans nos batteries que nous utilisons pour nos prothèses auditives.
D'accord.
Et le problème aujourd'hui, c'est que les convertisseurs qu'on utilise, ils sont principalement ce qu'on appelle des matériaux piézoélectriques, qui ont la particularité de créer un courant électrique quand ils sont déformés. Donc nous, en bougeant notre mâchoire, on déforme ce matériau-là, qui est localisé à l'endroit précis dans le conductif qui génère la plus grosse quantité d'énergie. Et en fait, ce matériau-là, lui, il va nous donner en sortie de ce mouvement de conduit auditif notre énergie électrique. Et donc cette énergie électrique, on peut imaginer qu'on l'envoie dans une batterie et on obtient...
La batterie est rechargée, l'énergie se stocke.
Et exactement. Et en fait, du coup, le souci, du coup, ce qui reste le plus gros challenge aujourd'hui, c'est de trouver le meilleur des convertisseurs. Et donc jusqu'à présent, on a des ratios, on va dire, d'énergie entrante, énergie sortante qui sont trop petits pour, correspondre à la, on va dire, à la miniaturisation nécessaire qu'il nous faut pour que ça soit placé dans l'oreille, en fait. Parce que ces matériaux-là peuvent être, on va dire, pris avec des plus grandes surfaces, peuvent être pris avec des plus grands volumes.
Oui, parce que le point de contact, là, où le condyle de la mâchoire vraiment a un impact sur le condyle auditif, c'est pas très gros, là. On parle de quelque chose, c'est quoi? C'est la dimension, c'est comme un petit poids. Oui.
Exactement, le diamètre, il est de l'ordre de 10-12 mm. Donc, on est vraiment... la preuve, c'est qu'on ne peut pas rentrer notre doigt jusqu'au fond. Donc, c'est vraiment plus petit que notre doigt, en fait. C'est ça, donc... Donc non, c'est pour ça qu'il y a vraiment un réel challenge entre soit pouvoir miniaturiser, on va dire, les capteurs convertisseurs qu'on a aujourd'hui, tout en gardant, on va dire, les coefficients de conversion, on va dire, qui nous intéressent, soit à trouver, à innover dans le domaine des matériaux, dans le domaine des conducteurs, des matériaux conducteurs. De pouvoir trouver un matériau, on va dire une disposition, qui a taille qui nous intéresse, la miniaturisation qui nous intéresse.
Quelque chose qui soit suffisamment sensible pour qu'un déplacement tout petit soit utile. Parce que la preuve, le concept fait du sens. À moins de dormir beaucoup et de se nourrir avec une paille, on va toujours parler mastiquer. Exactement. Alors, c'est simple de reconvertir cette énergie-là. L'idée se comprend bien. Mais là, c'est encore, comme on dit en anglais, « the devil is in the details ». Il faut trouver la façon d'y arriver et c'est là qu'est tout votre challenge, parce que les applications possibles par la suite sont faciles à comprendre, oui. Surtout pour les personnes qui ont des prothèses auditives.
C'est ça. Si on reste dans le référentiel des personnes, on va dire, qui ont des déficiences auditives et qui ont besoin d'être appareillées pour moins se sentir exclues, on parle de millions de gens. On parle de même de, selon l'OMS, de milliards de gens d'ici 2050. Donc 2,5 milliards pour être précis. Et en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont, on va dire, atteints, mais qui vont être atteints de déficience auditive de par
le vieillissement.
Exactement, vieillissement, nuisance sonore, travail dans des environnements bruyants, il y a vraiment plein de facteurs. Et donc, rien que pour ces personnes-là, ce serait quelque chose qui leur permettrait juste de ne pas, on va dire, avoir de déficience, de ne pas avoir de handicap qui ne leur permettrait plus d'être, on va dire, sereine dans leur vie de tous les jours, en fait. Parce que,
tout à fait. Partie prenante de la société et de ne pas avoir le stress de dépendre de quelque chose qu'il faille recharger.
Exactement. Et de ne pas avoir, on va dire, son cerveau qui se demande à chaque fois, mais est-ce que j'ai ma pile de rechange? Est-ce que...
Tout à fait. Et me voici dans un environnement où il est important que je capte ce qui se passe autour de moi, enfin, que je capte les sons. Et voilà, ça tombe en panne, ouais. On vit tout ça avec nos téléphones cellulaires. On en dit un peu attaché, mais on peut comprendre. Ben, Monsieur Demain, je vous remercie de votre intervention aujourd'hui. C'est très prometteur. Évidemment, il faut comprendre que loin de la coupe aux lèvres, là, mais on a une piste et on sait où on cherche et c'est ça qui est important. Alors, Monsieur Demain, vous êtes candidat au doctorat à la chaire Critias de l'École de technologie supérieure. Ben, je vous souhaite une belle journée.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave. Sono o non sono il capitanoncino, e allora quando vi chiamo, lasciate tutto e correte, fate presto perché ti arriva tardi lo sbrano. Avanti che ne dà, notizie di Peter Pan, lo voglio vivo però, quando lo acchiappo non so che cosa lo stanno ad ascoltare, lo credono un eroe, ma è solo un qualunquista, un esibizionista, di tutti i miei nemici è il più pericoloso, è il primo della lista, ma a voi vi sembra giusto, durante un duello, ha preso la con tutta la banda, meglio che questa volta si arrenda, non voglio prigionieri, mi basta solo un ostaggio, la ragione dalla vostra parte, ricordatevelo, avanti all'arrembaggio, avanti all'arrembaggio, sono non sono il capitano Uncino, e allora avanti col coro, cantate tutti con me e ripetete con me gli slogan che vi ho insegnato.
Per i pirati non siamo, contro il sistema lottiamo, ci esercitiamo a scuola a far la faccia dura, per fare più paura. Ma cosa c'è di male? Ma cosa c'è di male?
Il rock di Capitan Uncino, c'était Edoardo Benato en 1980. Capitan Uncino, bien c'est le capitaine Crochet dans Peter Pan. Edoardo Benato est un auteur-compositeur italien des années 80, il est encore actif de nos jours, qui était plutôt irrévérencieux, dis-je, et dans la chanson, bien c'est le point de vue du capitaine Crochet, c'est pas celui de Peter Pan, voilà. Alors, c'est de la musique qui s'écoute bien. J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie M. Patrick Paulin. Bonjour, M. Paulin.
Bonjour.
Vous êtes conseiller municipal à Victoriaville, responsable des politiques sociales pour la ville, comité consultatif d'accessibilité universelle, politique des aînés. Vous êtes aussi, dans une autre partie de votre vie, directeur général du regroupement d'organismes de personnes handicapées Centre du Québec. Ça fait une longue feuille de route.
Voilà. Ça fait plusieurs chapeaux, mais des chapeaux convergents, vous en conviendrez.
Exact. Récemment, la Victoriaville a été honorée par l'Union des municipalités du Québec pour son programme d'accompagnement loisirs pour les adultes. Ça a été, le prix a été remis le mois dernier par l'Union des municipalités du Québec. Parlez-nous un peu de ce programme-là et de qu'est-ce qu'il a lancé et pourquoi vous l'avez réussi.
Effectivement, donc c'est un programme qu'on a lancé à la ville de Victoriaville et qui est issu d'une consultation publique qu'on a menée en 2019-2020, donc c'est pas d'hier, où on demandait, on était en planification stratégique pour l'ensemble de nos politiques sociales, donc on a fait une vaste consultation publique, et on s'est aperçu que les personnes handicapées nous disaient « Bon, Victoriaville, c'est super parce que vous avez beaucoup d'activités gratuites dans le cadre de la ville, vous avez également beaucoup d'équipements spécialisés qui pourraient nous permettre de faire du sport, du loisir, mais on a une gêne, on manque d'accompagnement, on ne sait pas trop comment faire, etc. » Donc face à ça, le comité consultatif de la politique d'accessibilité universelle, on s'est réuni puis on s'est dit « faut mettre en place quelque chose pour accompagner les personnes handicapées à participer à nos activités municipales et également à utiliser tous les équipements. » Quand on parle d'équipements, c'est des vélos adaptés, c'est le kayak adapté, c'est des équipements pour faire du ski avec un fauteuil roulant, etc. On a énormément d'équipements qu'on prête aux personnes en situation de handicap. Donc, il y avait cette gêne-là et on a dit, on va monter un programme d'accompagnement. On est en 2020 et dans le monde, il s'est passé quelque chose de bizarre.
Exact, ouais.
Ça devait être lancé à l'été 2020 et on n'a pas pu. Donc, on l'a lancé à l'été 2021, ce programme d'accompagnement. Et depuis, c'est un grand succès.
Je pense qu'il y a eu aussi partie prenante à ça, le cégep de Victoriaville et son programme d'éducation spécialisée.
En fait, comme vous le savez peut-être, Victoriaville, notre marque de commerce, c'est vraiment le partenariat. La ville ne fait rien sans la collaboration et le partenariat des organismes, des institutions qui sont sur notre territoire. Donc effectivement, monter un programme d'accompagnement, ben, ça nous prenait des partenaires. Les organismes de personnes handicapées de nos territoires, le cégep de Victoriaville a levé la main. Puis ça s'est fait un petit peu bizarrement parce qu'à l'été 2021, quand on a lancé ce programme, on a utilisé des accompagnateurs sous Emploi Canada. Et on avait accueilli également deux stagiaires du cégep de Victoriaville en AEC d'éducation spécialisée qui ont tellement trippé, ces stagiaires, qu'elles en ont parlé au cégep. Puis le cégep a dit, ben, ça serait-tu possible que vous accueilliez régulièrement des stagiaires de nos AEC et de notre DEC pour faire de l'accompagnement? Et depuis l'été 2021, ben, c'est non-stop. On accueille des stagiaires qui vont accompagner les personnes handicapées pour que ça soit aller faire leurs courses. Donc, on fait de l'accompagnement vers l'autonomie, participer à des activités de loisirs de la ville ou utiliser des équipements de la ville. Donc, on a vraiment une belle réussite. On a fait 760 accompagnements depuis le mois de juin 2021.
Donc, 760 en 12 mois, là, c'est...
À peine 12 mois, effectivement.
Oui, à peine 12 mois, tout à fait. Exact.
Actuellement, on a plus d'une quarantaine de personnes qui bénéficient de ce soutien-là. Particularité, c'est que on avait visé en premier lieu les personnes handicapées et comme nous, on travaille beaucoup en concertation sur nos politiques sociales, donc on a les aînés, la politique des aînés qui a dit nous aussi, on a des personnes qui vivent de l'isolement social, qui sont en perte d'autonomie, ça serait bien d'étendre ce programme-là. Alors actuellement, eh ben, on offre ce service d'accompagnement et aux personnes en situation de handicap et aux personnes aînées qui vivent de l'isolement.
Ben, c'est un besoin qui est universel. Donc, vous allez avoir des gens qui, pour toutes sortes de raisons, vont pouvoir bénéficier d'un tel programme. Victoriaville a comme une, peut-être pas encore une réputation, bien que ce serait mérité, en bonne partie, d'être une ville inclusive.
Vous faites
des efforts dans ce sens-là. Si on parcourt tout ce qui a trait à la ville de Victoriaville, on s'en aperçoit. Vous avez entre autres des prix Victoriaville, ville inclusive. où vous tout soulignez les collaborations ou les initiatives des gens chez vous.
Tout à fait. Ben, vous le disiez, puis je vais être chauvin. Oui, nous avons une réputation de ville inclusive. D'ailleurs, c'est notre slogan, hein. Victoriaville, ville inclusive, c'est sur nos armoiries, donc on le prône. On le prône non seulement, mais on agit à ce niveau-là, et notamment l'inclusion. Hein. Comme je vous le disais, on a une longue tradition de partenariat Victoriaville. Ben, on reconnaît également les apports de tous nos partenaires. Donc, chaque année, depuis plus de 15 ans maintenant, on remet les prix Victoriaville Ville Inclusive. Donc, ce sont des organismes communautaires de personnes handicapées qui nous soumettent des candidatures, que ce soit d'une institution, que ce soit d'un commerce, d'une industrie, qui a posé un geste particulier pour l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Et donc, lors du 3 décembre de chaque année, on se fait un plaisir de remettre ces prix pour souligner justement l'esprit inclusif que peuvent avoir nos partenaires du réseau économique, du réseau associatif ou du réseau institutionnel.
C'est certain que d'un point de vue d'une personne qui n'habite pas à Victoriaville, si on va faire mais qui peut avoir des challenges de mobilité, vous êtes aussi, vous avez une offre, si je peux dire, de tourisme avec des parcours qui sont adaptés.
Tout à fait. Ça vient d'une démarche qu'on a fait il y a plusieurs années avec l'organisme Kéroule et la fondation qui s'appelait Design Inclusif,
oui.
Destination pour tous. On a eu la première accréditation en Amérique du Nord de ville Destination pour tous. Donc ça, cette accréditation met en lumière tous les aménagements inclusifs qu'on peut faire pour les personnes handicapées qui voudraient venir passer un séjour de 2-3 jours. Donc on s'assure que nos établissements d'accueil hôtelier ou de tourisme soient accessibles, ça c'est la moindre des choses, mais également tous les services annexes. Pensez à une pharmacie qui soit accessible, pensez à un restaurant, pensez à un dépanneur, etc. Donc on s'assure que l'expérience de tourisme soit véritablement inclusive.
Comment expliquer, pourquoi est-ce que Victoriaville réussit tout ça alors que d'autres villes qui sont de taille ou qui ont des moyens similaires semblent ne pas y être encore arrivés. C'est quoi votre recette? Voilà.
La recette, c'est un long parcours. D'abord, il faut comprendre que Victoriaville a fait beaucoup de consultations publiques. Hein. Depuis les années 90, il y a dans l'ADN de Victoriaville la participation citoyenne. D'ailleurs, c'est le réseau associatif des personnes handicapées de notre ville qui a interpellé la ville en 1999, donc avant la loi qui faisait obligation aux villes de plus de 15 000 habitants de se doter d'un plan d'action pour les personnes handicapées. Donc, Victoriaville, en 1999, répond à la demande du milieu associatif des personnes handicapées pour se doter d'une première politique d'accessibilité et d'un premier plan d'action. Et elle met en place le comité consultatif d'accessibilité universelle. Et depuis 1999, le pouvoir politique, les maires et les conseillers et conseillères successifs ont réaffirmé cet engagement qu'on devait être une ville inclusive.
Alors maintenant, ça va au-delà des appartenances et comme vous dites, ça fait partie de l'ADN de la ville. Là. C'est plus une question de réussite personnelle, mais ça inclut tout le monde dans cette poursuite-là. Ben, Monsieur Paulin, je vous remercie beaucoup. Quand on passera par Victoriaville, on s'arrêtera pour jouir du tourisme accessible chez vous. Merci.
Je vous invite et j'invite vos auditeurs. Un petit coup de fil à l'hôtel de ville, ça va me faire plaisir de vous accueillir personnellement. Victoriaville veut être une ville de destination pour toutes les personnes en situation de handicap et leur offrir une expérience valorisante.
Merci. Bon été.
Merci, au revoir.